Vous écoutez RTL.
Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mercredi 9 janvier, comment sauver le grand débat national qui doit démarrer dans une semaine? Qui pour remplacer Chantal Jouanneau? Toutes les idées seront-elles vraiment prises en compte? Comment? Lauriane Rossi, députée LREM, sera l'invitée de ce journal. Le boxeur du pont Senghor à Paris sera jugé en comparution immédiate cet après-midi après avoir frappé violemment deux policiers. Une douzaine de gens du voyage interpellés du côté de Saint-Dizier. Ils s'étaient bagarrés avec les forces de l'ordre sur un rond-point il y a un mois et demi. Dans RTL Midi aussi, les radars, même endommagés, continuent à flasher 30% de plus en décembre. Ça va se payer en mort, prévient le délégué à la sécurité routière. Nous verrons ce qu'on en dit du côté de 40 millions d'automobilistes. Les soldes en mode diesel, ils ont démarré ce matin et ça chauffe très très doucement. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
La neige passe la première couche dans l'Est.
Oui, c'est vrai, j'ai quelques observations de neige là en Bourgogne, du côté de la Franche-Comté. Quand je dis observation, c'est jusqu'en plaine ou encore autour de la région Rhône-Alpes. Ça tombe également sur les reliefs, des Vosges, du Jura ou encore du nord des Alpes. Ça va être comme ça tout au long de l'après-midi. Pas forcément de grosses quantités, mais parfois plusieurs centimètres quand même sont attendus, quasiment donc jusqu'en plaine. Ailleurs, on retrouve des averses du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Massif central. Et puis plus à l'ouest, là, ça restera sec avec même quelques belles éclaircies. Soleil près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de mistral et de tramontane jusqu'à 100 km/h. Les températures, plutôt en train de baisser. 2 à 4 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, 5 à 7 degrés ailleurs et 11 à 15 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il remplacer tous les radars vandalisés? Vous dites oui à 29%, il y a surtout 65% de non. On attend vos arguments, vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Étonné, effectivement, Pascal Pro, bonjour.
Si vous demandez aux gens de moins payer et de rouler plus vite, à mon avis, ils vont vous répondre hélas, oui. Vous voulez les autres questions du jour, peut-être?
Ça peut m'intéresser.
Peut-on
aussi,
aborder tous les sujets du grand débat national et quelles thématiques souhaiteriez-vous que l'on pose sur la table? Chantal Jouanneau quitte l'organisation du grand débat national. Est-ce que ça vous choque qu'elle reste à son poste avec ses 14 000 euros par mois? Les soldes d'hiver, pourquoi pas? Et puis tous les sujets que vous aborderez dans le 12-30 et qui seront développés entre 13 et 14
heures. RTL Midi.
Et pour commencer, l'incroyable parcours d'un jeune homme de 22 ans, inconnu l'an dernier. Mais depuis, Benjamin Pavard a été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football. Souvenez-vous. Cette fois, celui qui sort de nulle part quitte l'équipe de Stuttgart pour le prestigieux Bayern Munich. Un contrat de 5 ans qui démarrera en juillet prochain. Et le Bayern compte, moyennant 35 millions d'euros, sur sa frappe de bâtard, Christian Olivier.
Eh oui, personne n'a oublié cette frappe de bâtard. Benjamin Pavard.
La frappe de Pavard, on l'a vu.
Voilà, 30 juin 2018, 57e minute, 8e de finale contre l'Argentine, volée exceptionnelle, but égalisateur contre l'Argentine, les murs du studio de RTL en tremblent encore. Depuis, le natif de Maubeuge qui a grandi à Jeumont, fiston d'un magasinier et d'une secrétaire d'hôpital, a poursuivi son petit bonhomme de chemin, mais dans la difficulté, contrarié par une blessure en raison d'une reprise d'entraînement trop rapide après le mondial. Son club Stuttgart, en queue de classement du championnat allemand, n'a pu en profiter. Mais le prestigieux Bayern Munich peut être conseillé, allez savoir, par un certain Vicente Lizarazu, autre grand défenseur du Bayern, ambassadeur du club allemand et voix du foot sur la première radio de France, a toujours eu un œil sur un joueur qui n'a que 22 ans, vous l'avez dit, Christelle. Il est estimé à 35 millions d'euros, c'est pas mal, pour un contrat de 5 ans qu'il commencera à honorer en juillet 2019. Le Bayern Munich, donc, mise sur le temps et un talent découvert par Didier Deschamps. La suite avec l'équipe de France, on la connaît. Celle avec le Bayern Munich reste à écrire.
Christian Olivier, l'ultra fermeté face aux Gilets jaunes. Nouvelle démonstration ce matin du côté de Saint-Dizier dans la Haute-Marne. 13 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir fait le coup de poing contre des gendarmes sur un rond-point qu'ils occupaient. Samuel Goldschmidt, ce sont des gens du voyage qui ont été arrêtés.
Oui, ces personnes donc arrêtées et placées en garde à vue pour participation à un attroupement armé et violence exercée contre les forces de l'ordre. C'était au tout début du mouvement, le lundi 19 novembre dernier, et le rond-point des Nations à Saint-Dizier était le plus chaud du secteur. C'est ce que nous disaient les Gilets jaunes de Haute-Marne que nous avions rencontrés à l'époque. Le lundi après-midi, il y a eu des affrontements. 3 gendarmes mobiles avaient été blessés. Et l'opération de police judiciaire de ce matin a donc été lancée avec 400 gendarmes en tout dans les villages de Perthes et Sapignicourt, tout près de Saint-Dizier et tout près du rond-point des Nations. Et les perquisitions se poursuivent parce que la gendarmerie enquête aussi sur une équipe de gens du voyage criminels qui s'est infiltrée parmi les gilets jaunes pour rançonner des automobilistes, des chauffeurs routiers et voler du fret. Et il y a eu d'ailleurs des saisies réalisées en même temps que les interpellations de ce matin.
Voilà, il y aurait eu aussi du racket. Merci Samuel. La garde à vue du boxeur qui avait violemment frappé deux gendarmes mobiles samedi dernier sur un pont de Paris s'est achevée en fin de matinée. Christophe de Tinger va désormais être déféré devant la justice. Guillaume Chiez, il va être jugé dans les prochaines heures en comparution immédiate.
Oui, et l'ex-boxeur a désormais deux options. Soit il accepte d'être jugé en comparution immédiate cet après-midi, soit, et c'est la solution qui semble se profiler selon son avocate, Christophe de Tinger refuse. Il a le droit de le faire pour demander plus de temps afin de préparer sa défense. Dans ce cas-là, il y a de très fortes chances que l'ex-boxeur soit placé en détention provisoire et attende son futur procès en prison. Au cours de son audition qui a duré deux jours, Christophe de Tinger a reconnu les violences contre les gendarmes. Il a expliqué avoir agi ainsi pour protéger une manifestante. Il reconnaît s'être ensuite emporté. Il a même présenté ses excuses aux enquêteurs qui l'entendaient.
Et d'après vos informations RTL, Guillaume, Christophe de Tinger est visé par une deuxième enquête, cette fois pour détention d'armes illégales.
Oui, une enquête confiée au parquet d'Evry. Lors des perquisitions menées chez lui lundi dernier à Arpajon, dans l'Essonne, les enquêteurs ont découvert que Christophe de Tinger détenait un fusil de chasse. Les enquêteurs doivent donc vérifier si l'ex-boxeur était ou non en possession de toutes les autorisations nécessaires à la détention d'une telle arme.
Merci Guillaume. Quant à cette histoire de cagnotte, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Lizuret, l'a évoqué ce matin sur RTL. « Je ne sais pas les motivations de ceux qui ont participé à cette collecte », a-t-il dit. « Mais quand on subventionne, on cautionne ». Dans un instant, le grand débat national, c'est dans une semaine. Et pour l'instant, c'est le grand flou.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Comment sauver le grand débat national qui doit s'ouvrir le 15 janvier ? Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, ne le mènera pas suite à une polémique sur son niveau de salaire de l'ordre de 14 000 euros. Mais l'exécutif n'a qu'une semaine pour trouver quelqu'un pour incarner cette grande concertation qui doit permettre une sortie de crise. Olivier Bosse, vous êtes à l'Élysée pour RTL.
Oui, et c'est tout le sujet du séminaire gouvernemental de rentrée qui se tient en ce moment avec le gouvernement au grand complet autour du président de la République. Si vous voulez, ils débattent des mauvais débuts du grand débat. Et selon nos informations, plusieurs pistes sont encore sur la table. D'abord, effectivement, il y a l'hypothèse d'une personnalité pour simplement remplacer la démissionnaire Chantal Jouanneau. Ensuite, il est possible qu'il s'agisse en fait d'un collège de personnalités qui se contenterait de garantir le bon déroulement de la consultation. Une autre hypothèse circule aussi, c'est le recours à une entreprise pour réaliser la synthèse des débats, exactement comme l'avait fait Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle pour la synthèse du porte-à-porte, vous savez, la grande marche. Ces aspects peuvent paraître symboliques et techniques, mais ils sont importants pour le succès du débat. Les Français doivent avoir le sentiment que ce qu'ils diront ne sera pas censuré et servira à quelque chose, sinon ils n'y participeront pas. Et puis l'autre sujet en discussion en ce moment à l'Élysée, lui aussi important, ce sont les limites du grand débat, les sujets interdits qui vont être très clairement posés.
Olivier Bost, avec nous pour aller plus loin, Lauriane Rossi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, bonjour.
Bonjour.
Avec le départ de Chantal Jouanneau, quelle personnalité politique pourrait porter ce grand débat selon vous ?
Écoutez, je crois que c'est un faux débat. Je pense qu'il ne faut pas personnifier ce grand débat national qui appartient avant tout aux citoyens. En revanche, il faut l'organiser. Il y a une priorité, effectivement. C'est de parvenir à l'organiser au plus vite, puisqu'il doit se tenir dès le 15 janvier dans chaque ville de notre pays. Et nous devons garantir le fait qu'il soit apolitique, oui. Profondément républicain, profondément citoyen. Donc en ce sens, effectivement, il faut que nous ayons une institution ou un collège de personnalités, peu importe, mais qui garantisse effectivement ce caractère apolitique et républicain. Évidemment, l'organisation soit finalisée. Elle est quasi finalisée. Nous y viendrons à bout de manière à ce que tout puisse se tenir dès le 15 janvier et que tous les sujets soient abordés au regard des quatre thématiques annoncées par le président de la République.
Tous les sujets, vraiment tous les sujets, Benjamin Griveaux commence à poser des limites. Ça doit être ni le grand déballage ni le grand rattrapage des déçus du journal du suffrage universel. Le gouvernement a déjà fait savoir qu'il n'était pas question de revenir sur l'une des revendications majeures des Gilets jaunes, c'est-à-dire le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Il est quand même rétréci ce débat, non ?
Non, nous avons fixé quatre grandes thématiques qui recouvrent beaucoup de sujets. Vous avez la fiscalité et pourquoi pas, dans le cadre de ce groupe-là, de ce débat-là, débattre effectivement de l'impôt sur la fortune. Je pense qu'il ne faut, faut qu'il n'y ait aucun tabou. En tout cas, toutes les propositions seront les bienvenues. Donc la fiscalité, la transition écologique, la démocratie participative locale et nationale, bien sûr, l'organisation de l'État et des services publics, leur efficacité, leur proximité. Voilà les quatre grandes thématiques. Oui, derrière ces thématiques-là, énormément de sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens et qui couvrent l'ensemble des revendications du mouvement des Gilets jaunes et bien au-delà des Gilets jaunes, l'ensemble des Français.
Et pas question de revenir sur les réformes qui ont été menées depuis 18 mois.
Je pense effectivement que les acquis sociaux chèrement acquis au fil des décennies, voire des siècles par notre pays, n'ont pas lieu d'être débattus dans ce cadre-là. Je pense notamment à des sujets comme la peine de mort, le droit à l'avortement ou encore le mariage pour tous.
Et pas non
à
plus
mon
les
sens,
réformes,
d'ailleurs, ça ne fait pas partie des revendications des Gilets jaunes.
Pas non plus les réformes d'Emmanuel Macron.
Non, je n'ai pas dit ça. Je pense effectivement qu'il y a certaines réformes qui méritent peut-être d'être débattues. Peut-être que nous ne sommes pas allés assez loin sur certains sujets. Je l'ai dit sur d'autres plateaux. Je pense qu'en matière de justice sociale et de justice fiscale, nous pouvons aller plus loin et remettre à plat un bon nombre de choses, notamment la progressivité de l'impôt sur le revenu et pourquoi pas la fiscalité autour la fiscalité des grandes entreprises, du patronat. Certains veulent aller aussi sur le terrain des droits de succession. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, la parole est aux citoyens. Il ne faut pas la censurer, ni même la leur retirer, en détournant aujourd'hui le sujet et la polémique autour de la personnalité de Chantal Jouanneau, qui n'avait pour mission que d'organiser, c'est la CNDP d'ailleurs, ce n'est pas Chantal Jouanneau, c'est la CNDP dans son ensemble, qui avait pour mission d'organiser ce débat-là.
Merci beaucoup, merci Lauriane Rossi d'avoir été l'invitée d'RTL Midi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Marine Le Pen salue la recomposition de la vie politique. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, qui flirtait depuis longtemps avec les idées du Front National, figurera donc sur la liste de Marine Le Pen aux européennes. L'élu Les Républicains a justifié ce matin son ralliement.
C'est peut-être cette nouvelle génération de politiques qui fait quelque chose de révolutionnaire, qui fait après les élections ce qu'ils ont dit avant les élections. Et pourquoi aussi je soutiens Marine Le Pen ? Je vais vous dire, je pense qu'elle en a tellement pris plein la gueule depuis des années que ce qu'elle dit avant les élections, elle est capable un jour de le faire après les élections et pas de dire, mon Dieu, ça va déplaire au club de je sais pas quoi, à trois personnes et à deux lobbies, etc. Voilà. Donc, je pense que l'avenir, c'est pas Orban et Salvini, mais il montre qu'il y a une nouvelle politique et c'est dans cette direction.
Thierry Mariani au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Les Français ont le moral dans les chaussettes. La confiance des ménages en décembre est tombée à son plus bas niveau depuis novembre 2014 d'après l'INSEE et ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs finances. Au même moment, on apprend que les dividendes des entreprises du CAC 40, autrement dit les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, ont retrouvé un niveau record. Elles ont versé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires l'an dernier. C'est du jamais vu depuis la crise financière. Martial Liu, comment expliquer vous un tel résultat ?
Eh bien, les dividendes sont calculés en fonction des résultats de l'entreprise. Et ceux de cette année sont calculés sur 2017, qui a été une très, très bonne année, mais pour tout le monde, dans le monde entier, y compris d'ailleurs pour l'économie française. Du coup, les entreprises du CAC ont généré 92 milliards de bénéfices et elles ont donc reversé à leurs actionnaires un peu plus de la moitié de ce qu'elles avaient gagné. Mais il faut quand même dire que l'on ne fait que retrouver en fait les niveaux d'avant la crise en 2007 et que les entreprises du CAC 40 n'ont pas renié pour autant leurs investissements.
D'accord, donc elles se portent bien, mais oui. Est-ce que cet argent ruisselle, si j'ose dire, ruisselle un peu vers les salariés ?
Bon, écoutez, on va donner deux chiffres. Les dividendes ont progressé de 12,8% sur un an. Les salaires, en moyenne dans le privé, ont augmenté entre 2 et 2,5%. Donc on voit bien que tout n'a pas été redistribué. Il y a une différence. Les grands bénéficiaires en fait, de ces dividendes, ce sont les fonds d'investissement, surtout américains. Un fonds comme BlackRock, par exemple, est le leader mondial des investisseurs. Eh bien, il est présent dans toutes les boîtes du CAC 40 quasiment. Et maintenant, précisons aussi que dans ces grandes entreprises cotées, les salariés sont souvent actionnaires, malgré tout. Donc, ils touchent une partie des dividendes. Mais il faut quand même aussi rappeler que ces entreprises cotées ne représentent que 0,2% du nombre total d'entreprises dans le pays. La France est un pays de PME, de TPE. Donc, quand on enlève les fonctionnaires et les employés des petites entreprises, on voit que peu de salariés bénéficient des dividendes.
C'est plus clair comme ça. Merci pour ce décryptage, Martial. On marque une pause, le temps de se faire vacciner contre la grippe.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
L'épidémie de grippe est en retard et les Français sont mieux vaccinés. C'est une bonne nouvelle. Après quelques années de doutes, le vaccin a renoué avec le succès. 9 millions de Français se sont protégés cette année contre 7 millions l'année dernière. Comment vous l'expliquez, Jacques Serret ?
Eh bien, ce sont notamment ces derniers chiffres publiés par Santé publique France. Les personnes ciblées par les recommandations vaccinales, les plus de 65 ans ou ceux qui présentent des pathologies chroniques, sont plus nombreux à s'être fait vacciner. Plus 8% par rapport à la même période l'année dernière, soit 540 000 Français. Le docteur Sybille Bernard-Stoclin, épidémiologiste à Santé publique France, y voit une prise de conscience de la dangerosité de la grippe chez les personnes dites à risque.
L'année dernière, on a connu une épidémie de grippe particulièrement sévère, très longue, avec un nombre important de personnes qui ont été hospitalisées, voire qui sont décédées de la grippe. Et donc, ça peut être marqué particulièrement la population française. Et donc, expliquer que des gens à risque de formes sévères ont pu se faire vacciner cette année et que ce n'était pas le cas l'année dernière.
L'autre explication, c'est aussi l'expérimentation de la vaccination contre la grippe en pharmacie. C'est possible cette année dans 4 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Occitanie. 700 000 Français l'ont reçu dans une officine. Cela doit être généralisé partout en France l'année prochaine.
Jacques Serret, parlons de sécurité routière à présent. RTL vous le révélait ce matin, le nombre de flashs des radars a bondi de 30% en décembre. Ces excès de vitesse inquiètent les responsables de la sécurité routière, alors que 6 radars sur 10 ont été dégradés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Christophe Bourroux, l'exécutif, va-t-il les remplacer au plus vite ?
C'est en tout cas le souhait d'aller vite, très vite, mais pas si simple. Cela dépend des dégâts subis, exemple pour une vitre cassée ou un tag. Il faut compter un délai d'intervention d'une semaine pour un coût d'environ 500 euros. Pour remplacer une cabine fixe, là c'est beaucoup plus long. Un mois en moyenne pour une facture salée entre 60 000 et 80 000 euros, voire jusqu'à 200 000 euros pour les machines les plus performantes comme les radars tronçons qui permettent de calculer les vitesses entre deux points. Alors en 2012, le coût du vandalisme avait été estimé à plus de 22 millions d'euros pour une année entre guillemets normale, c'est-à-dire où les radars fonctionnent à plus de 90%. Forcément, avec 60% de radars impactés en 2018, ce chiffre va exploser. L'État estime d'ailleurs les recettes en baisse déjà de 15%, avec le risque de voir les accidents bondir, selon Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière.
C'est une responsabilité très grave de détruire un radar. Et ça, ça va se payer en mort. Donc celui qui a cette petite joie ridicule d'abîmer un radar doit comprendre que peut-être sa responsabilité, c'est la mort d'autrui. Et qui sait, peut-être d'un de ses proches ou de lui-même. Donc il faut vraiment que ça cesse. Et nous réparons évidemment tous les radars. C'est pas parce qu'on casse un vaccin qu'on fait disparaître une maladie. C'est pas parce qu'on casse un radar que finalement on fait disparaître le problème et le risque lié à la vitesse.
Et nous sommes en studio avec Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. C'est criminel, ça vous fait sourire.
Mais non, mais je vais pouvoir rassurer le délégué interministériel à la sécurité routière, l'homme en charge du sauver le soldat radar. Tout se passe bien. Les radars ont été dégradés en France de manière un peu forte maintenant depuis le mois de juillet. L'arrivée du 80 km/h, poussée d'ailleurs par ce même délégué interministériel qui décidément a beaucoup de bonnes idées de ce type en France. Et on se retrouve avec une augmentation du nombre de dégradations de radars exponentielles, 20-30%
oui,
cet été, et puis jusqu'à 60% aujourd'hui, oui. Et puis une mortalité qui est constamment à la baisse. Donc il faut quand même reprendre un petit peu de raison et se rendre compte que ce discours alarmiste, on ne peut plus alarmiste d'ailleurs, voire même traiter de criminel celui qui dégrade un radar. On ne va pas cautionner les dégradations, c'est une évidence. Mais cependant, les chiffres donnent raison à nos propos à 40 millions d'automobilistes. Les dégradations de radars ne jouent pas du tout sur la baisse de la mortalité routière.
En tout cas, on n'a pas les chiffres du mois de décembre, là, pour l'instant. Vous parlez de quelque chose, vous n'avez pas les chiffres.
Vous savez, si, je les ai. J'ai encore ces chiffres. Je me souviens au Mondial de l'Auto où on parlait d'un radar sur deux qui était désactivé en France. On était à la mi-octobre.
Non, mais là, on n'a pas le chiffre des morts sur la route en décembre.
Il manque que décembre.
Au moment des Gilets jaunes. Bah oui, mais c'est quand même très important.
Mais c'est pas Gilets jaunes, le mouvement de dégradation des radars. Ça
Non, il est parti des 80 km/h, mais il s'est accentué.
C'est 80 km/h.
Il s'est accentué ces dernières semaines.
Mais comme je vous le dis, avec un radar sur deux dégradé à la mi-octobre, mi-novembre, avant donc le mouvement Gilets jaunes, on aurait, si on écoute ce discours apocalyptique, on aurait plus de tués sur la route. Autre exemple, est-ce que vous vous souvenez des bonnets rouges ? Lorsqu'il y a eu le mouvement bonnets rouges en Bretagne, ça a été rapide. De toute façon, il n'y avait plus de radar, ils étaient tous dégradés en même temps que les portiques. Je me souviens du délégué interministériel de l'époque qui était venu alerter sur tous les médias de l'impact et de l'augmentation inéluctable de la mortalité. Et au final, pendant toute la période bonnet rouge, eh bien, ça, la mortalité a baissé.
D'accord,
et l'Angleterre,
c'est
pareil.
Mais ça indique quand même qu'il y a un relâchement des comportements s'il y a 30% de flash en plus.
Non, il n'y a pas 30% de flash. Il a noté 30% d'excès de vitesse supplémentaire. Il n'y a pas 30% de flash.
Alors, je m'adresse à Christophe Bourou qui est toujours en studio avec nous. Christophe, c'est 30% de quoi ?
Ce que dit le délégué interministériel, c'est 30% de flash en plus, enfin d'excès de vitesse.
D'excès de vitesse.
Après, qui ne se traduisent pas forcément par des PV d'ailleurs.
C'est
non,
ça, parce
qu'ils étaient dégradés en partie, voilà. Il y en a qui sont voilés, donc on ne peut pas voir qui est dedans. D'accord, mais ça veut dire que ça traduit quand même la réalité d'un relâchement des comportements, non ?
Non, ça ne traduit pas de relâchement des comportements, puisqu'il y a une baisse de la mortalité routière. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Depuis maintenant un an et demi, depuis avant l'arrivée du 80 km/h, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux qu'être en accord avec mon associé, avec le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, qui juge que c'est une connerie, eh bien, depuis l'arrivée de ce 80 km/h, on a un ralentissement de la baisse de la mortalité routière. C'est pas de ma faute, c'est la réalité statistique. C'est-à-dire que la baisse de la mortalité routière et de l'accidentalité a été plus forte avant l'arrivée du 80. Donc, à part braquer l'opinion publique...
Pour vous, il n'y a pas de lien.
Ben non, il n'y a pas de lien. Dernier exemple, on va partir en Angleterre. J'adore partir outre-Atlantique. Ils ont désactivé plus de 60% de leur radar automatique sur leur territoire et ils sont dans le top 3 européen de la sécurité routière. On devrait s'en inspirer. Ils font tout autour d'un mot génial qui s'appelle la formation, l'éducation et la prévention.
Et la pédagogie, on en reparlera très certainement. Merci Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Nous sommes le mercredi 9 janvier, c'est l'ouverture de la chasse aux bonnes affaires. Les soldes d'hiver viennent de démarrer, les commerçants espèrent rattraper un chiffre d'affaires assombri par les gilets jaunes. À Armelle Lévy, vous êtes rendu au cœur de Paris dans le quartier Saint-Lazare. On peut dire que ce n'est pas franchement la ruée.
Bonjour madame.
Derrière les sourires des vendeuses, ce n'est pas la joie ni la frénésie des grands jours. Les commerçants qui ont perdu 2 milliards d'euros en décembre comptent vraiment sur les soldes pour se refaire une santé.
Ben j'espère pour nous, hein. J'espère madame. Franchement j'espère. J'espère parce qu'on a tellement regardé le stock qu'on a, c'est impressionnant quoi.
Anna Maria, dans son magasin de chaussures, a perdu 30% de chiffre d'affaires en décembre, mais elle a le sentiment que ses clients n'attendent plus vraiment les soldes à cause des promotions tout au long de l'année.
Je pense que c'est moins, il y a moins d'engouement qu'il y a des années, enfin il y a même 3-4 ans. Parce qu'il y a tellement de soldes flottantes, il y a des grandes chaînes, toujours pareil, c'est toujours les chaînes. Quand elles font les soldes, on ne peut même pas suivre parce qu'on n'a pas, la marge pour suivre. Donc, ça n'a plus de sens, c'est dur pour nous les petits commerçants.
Alors quand même, les soldes attirent toujours, leur paquet à la main, David et Marie ne rateraient les soldes pour rien au monde.
50 euros là, que des vêtements, je vais continuer. Là je me dirige vers les chaussures et puis je vais voir. Voilà, j'en profite.
Les soldes ça a toujours été intéressant, donc été, hiver, c'est le moment d'acheter quand c'est moins cher. Faut aussi me penser un petit peu à soi, hein. Je me laisse tenter moi.
Les soldes d'hiver vont durer 6 semaines cette année pour se faire plaisir.
Oui, c'est la dernière fois d'ailleurs qu'ils durent 6 semaines.
La dernière fois. Après, ce sera 4 semaines.
Merci. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez donc dialoguer au 32-10 dans une dizaine de minutes. Alors
ben, je crois que les conditions ne sont pas réunies pour que je présente tout à l'heure les auditeurs ont la parole. Mais je souhaite quand même garder mon salaire, si ça ne vous ennuie pas, Christelle Robillard.
J'ose même pas vous le demander.
Mais dans quel pays vivons-nous ? Enfin, Chantal Jouanneau, qui est un haut fonctionnaire, qui devait organiser le débat, ne veut pas l'organiser, mais reste en place. Mais comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose à ce qui se passe en France et dans la haute administration ? Ben, vous pourrez réagir, moi je vous donne mon avis, hein. Peut-être qu'il n'est pas partagé. En tout cas, au 32-10, vous pourrez évidemment parler du salaire de Chantal Jouanneau, qui reste donc à son poste. On pourra également parler de ce grand débat national. Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets ? Quelle thématique souhaiteriez-vous que l'on pose sur la table ? Les soldes d'hiver, pourquoi pas ? Augmentation des dividendes également dans le CAC 40, ça peut faire réagir. Et puis les radars vandalisés, est-ce que ça change ? Est-ce que ça a changé votre manière de conduire ? À tout de suite.
À tout de suite. La météo, Louis Baudin, le froid pique un peu plus.
Eh oui, un peu plus. Hein. Cet après-midi, les températures ne dépasseront pas les 2 à 4 degrés, par exemple, de la région Rhône-Alpes au nord-est. 5 à 7 degrés, pas plus dans les autres régions. On repasse un peu en dessous des moyennes de saison, même si on est en hiver, hein, c'est normal qu'il fasse froid quand même. Et 11 à 15 degrés près de la Méditerranée. Alors tout ça avec une France un peu coupée en deux, mais alors dans le sens de la hauteur, hein, on tire un trait entre Lille et Perpignan, oui, pour une fois. À l'est de cette ligne, eh bien, on commence à avoir un ciel nuageux et menaçant avec quelques averses sous forme de pluie ou de neige à passer altitude, hein, quasiment jusqu'en plaine. J'en vois un peu là du côté de la Côte d'Or, en région Rhône-Alpes. Ça donnera de la neige également dans les Alpes. Ça va être comme cela tout au long de l'après-midi. À l'ouest de cette limite, eh bien là, on commence à avoir un temps sec avec même quelques belles éclaircies de la Bretagne à l'Aquitaine, sauf au pied des Pyrénées. Et puis enfin, sur le littoral méditerranéen, là, on fait jamais rien comme ailleurs, avec un ciel totalement dégagé, mais du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 100 km/h.
Et demain, toujours ce froid ?
Oui, ce froid qui va même être un petit peu plus vif le matin, parce que les gelées vont revenir dans la plupart des régions, jusqu'à moins 3, moins 4 degrés. Donc, ça sera plus frais, plus froid même que ce matin. Puis en cours d'après-midi, des températures qui ne dépasseront pas le 1 à 4 degrés, quelle que soit la région. Il n'y a qu'en bord de mer et surtout près de la Méditerranée qu'on sera un peu au-dessus. Tout ça avec un temps plus sec aujourd'hui. Il restera quelques flocons jusqu'en plaine dans les régions de l'Est, mais ça restera très mesuré. Ailleurs, on pourra, malgré ce froid, espérer un peu plus d'éclaircies en cours d'après-midi.
Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard. RTL. Il est 13h01.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour. Deux médecins de la clinique des Trois Frontières à Saint-Louis, près de la frontière suisse, mis en examen pour homicide involontaire après le décès en novembre dernier d'une petite fille de 4 ans après une banale opération des amygdales, Yannick Collin.
Oui, l'autopsie n'avait au départ pas révélé d'erreur flagrante des médecins. La première opération semblait s'être bien passée avant que la fillette ne soit prise de vomissements en salle de réveil. Réopérée en urgence, elle était décédée 5 jours plus tard. C'est suite à l'audition de tout le personnel médical de la clinique que le juge d'instruction mulhousien a décidé de mettre en examen ces deux médecins pour homicide involontaire, maître Thierry Moser et l'avocat de la famille de la petite victime.
Il y a des éléments troublants. Le problème semble résider essentiellement dans le suivi post-opératoire. Et là, je l'ai dit, il y a, à mon sens, des carences indiscutables qui ont été mises en évidence. Il s'agit d'un chirurgien et d'un anesthésiste. Je constate que le chirurgien cherche à se défausser sur son collègue anesthésiste. Je trouve d'ailleurs que ce système de défense est un petit peu déplaisant et indigent.
Alors au-delà de ces médecins qui semblent se renvoyer la responsabilité, la clinique devrait elle aussi être prochainement mise en examen pour des carences en termes de formation et l'absence d'instruments médicaux spécifiques pour les enfants. En tout cas, depuis ce décès, la clinique a suspendu toutes les interventions chirurgicales sur les enfants de moins de 15 ans.
Et Yannick Collin pour RTL. Christophe Détinger présenté cet après-midi à la justice en vue de son procès en comparution immédiate. L'ancien boxeur professionnel soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes samedi dernier à Paris pendant la manifestation des Gilets jaunes, accusé de violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. La piste criminelle ne fait aucun doute selon les gendarmes après l'incendie volontaire de la sous-préfecture de l'Espard dans le Médoc la nuit dernière. Pas de victimes, mais les services publics sont fermés. Pas de liaison pour l'instant avec les Gilets jaunes, très revendicatifs dans la région. Lors de ses traditionnels vœux, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, exprime son rejet de la violence à propos de cet incendie et des heurts pendant les dernières manifestations.
Forte indignation, ce genre de comportement est inacceptable. Il y a aujourd'hui des personnes en souffrance qui ont envie de s'exprimer, il faut les écouter, elles ont le droit de manifester. En revanche, les voleurs, les pillards, les vandales, comme on en a vu samedi après samedi dans les rues de Bordeaux, n'ont pas leur place dans l'espace public, ni ailleurs d'ailleurs, et donc le gouvernement doit faire respecter l'ordre républicain. Ici, la mairie de Bordeaux, qui n'est peut-être pas quand même en première ligne dans les décisions gouvernementales, est cernée régulièrement justement comme symbole des pouvoirs publics. C'est donc une atteinte même aux principes républicains, aux institutions républicaines qui est en cours. J'entends des choses qui sont profondément inquiétantes sur les principes même de notre démocratie. Quand j'entends dire que la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, les contre-pouvoirs, tout ça, c'est du pipeau, et qu'il faut passer maintenant à la souveraineté populaire, ça me rappelle des choses un peu terrifiantes hein, en termes historiques. Donc là, on a face à nous, c'est vrai, une petite minorité sans doute, mais d'ultra-anarchistes ou révolutionnaires qui veulent casser la baraque et casser la République.
Alain Juppé au micro RTL de Philippe Demaria. Des annonces sur l'organisation du grand débat national cet après-midi après le séminaire gouvernemental, annonce Matignon. Il s'agit de retrouver un pilote après le renoncement de Chantal Jouanneau. Lancement du débat mardi prochain après la publication d'une lettre à tous les Français de la part d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi faire, s'interroge aujourd'hui le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Quel débat national ? Cette espèce de baudruche qui est déjà dégonflée ? On veut nous dire quand on peut parler, de quoi on doit parler, avec qui on doit parler. Mais c'est une aimable plaisanterie. C'est de la foutaise. Le débat national, il est permanent, c'est la démocratie. Tout ça est grotesque et n'intéresse personne. D'ailleurs, symbole du... C'est extraordinaire, si on l'avait mis dans un roman de Houellebecq, personne ne l'aurait cru. Symbole, celle qui organisait le débat national gagnait 15 000 euros pour présider une espèce d'organisation qui sert à rien. C'est extravagant.
Nicolas Dupont-Aignan avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Le théâtre de boulevard ne rit plus, décès à 95 ans d'une de ses plus fameuses plumes, Pierre Barillet, mort hier, auteur de, avec son compère Jean-Pierre Grédy, de Fleurs de Cactus, Folamanda, Potiche, Lily et Lily, des pièces qui ont fait le succès de l'émission Au théâtre ce soir et qui reviennent en ce moment en force dans les salles parisiennes. La Bourse de Paris, c'est l'heure de notre point quotidien avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée.
Et oui, c'est assez rare pour être souligné. Le CAC qui a gagné plus de 1% hier progresse encore de plus de 1% aujourd'hui. Il retrouve les 4800 points, 4828 exactement. Alors hier, le Dow Jones et le Nasdaq ont suivi le même chemin, plus 1% pour leur troisième séance de progression d'affilée. Alors depuis le début de la semaine, des discussions ont lieu à Pékin entre les négociateurs chinois et américains et elles progressent de façon satisfaisante pour les deux parties. Les proches de la Maison Blanche ont même indiqué que Donald Trump souhaitait lui aussi une entente avec la Chine pour mettre fin à la volatilité de Wall Street. Il considère la bourse américaine comme un baromètre et n'apprécie pas ses soubresauts actuels. Du côté des valeurs, les titres massacrés de 2018 se redressent un peu, comme Trigano par exemple, qui regagne 12%, ou encore Plastic Omnium, plus 11%. À l'inverse, Aéroports de Paris abandonne près de 5%. Le marché donne du crédit au scénario d'un ajournement de la privatisation.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Dans un instant, vous prenez l'antenne dont les auditeurs ont la parole au 3210 avec Pascal Praud.
Vous écoutez RTL.